Il est mort Jim, lu par l'auteur, épisode 30, chapitre 5. Je ne perçus pas immédiatement qu'on me frôlait le pantalon. Lorsque je m'en rendis compte, le chat qui s'était approché pour partager mon repas s'éloigna d'un pas majestueux et peu impressionné. Je l'avais aperçu quelques minutes auparavant, qui dormait sur une pierre tombale. La pierre était un excellent élément pour garder la chaleur en cette journée d'hiver ensoleillée. Les chats savait ne pas manquer ces lieux où il pouvait s'étirer en toute jouissance. Y avait-il des secrets que cet animal ou ses compagnons connaissaient ? Allons, le cimetière devait la nuit être identique à ce qu'il était le jour. Bien sûr, l'obscurité le rendait nécessairement plus étrange. Il était d'ailleurs noir et blanc comme le jour et la nuit. Ces autres félins qui se prélassaient le jour devaient circuler la nuit dans ses moindres recoins. Silencieux, agiles, capables de voir dans l'obscurité, ils étaient parfaitement adaptés. Quelques années plus tard, un médium dont je reparlerai me dit qu'il avait eu la révélation du rôle des animaux. Ils étaient les liens entre les hommes et la terre, comme l'inspirait leur position rampante. L'explication me parut convaincante. Au Père Lachaise, ma dernière pensée consacrée au chat me ramena en mémoire une mention sur un site que j'avais parcouru pour préparer ma visite. Il disait que les anciens rites païens voulaient qu'on sacrifiât un homme à l'ouverture d'un nouveau cimetière. Il en devenait ainsi le gardien. Et il racontait aussi que le spectre que l'on voyait le plus au Père Lachaise était un chat roux d'une taille anormalement grande. Vers 13h30, je débouchai sur l'avenue de Saint-Maurice. Je fus stoppé par une femme qui passa devant moi sans s'arrêter ni me regarder. C'était une vieille dame. Son accoutrement était surprenant. Elle était habillée d'une robe en dentelle qui semblait venir du 19e siècle. Elle portait également un voile. « Excusez-moi, madame, » dis-je d'une voix forte, espérant la voir d'un peu plus près. C'était comme si elle n'avait rien entendu. Elle continua d'avancer lentement, sans esquisser le moindre geste de se retourner. Je fus tenté un moment de la suivre, puis je me dis qu'il devait y avoir beaucoup d'excentriques comme elle au Père Lachaise. Et puis, je n'étais plus très loin de la tombe que je cherchais et que j'avais voulu voir seule. Comme me l'avait dit la libraire Doro Preto, de nombreux visiteurs venaient là. Il n'y en avait pas en ce tout début d'après-midi, mais la sépulture était fleurie. Elle paraissait kitsch au milieu de ces belles pierres. C'était bien un dolmen commandé par Kardec lui-même. Avant de repartir à Paris, et après m'être informé sur Internet, j'avais acheté le livre des esprits que j'avais commencé à lire dans le train. La préface était rédigée par le Conseil Spirit International. J'avais lu qu'Hippolyte Léon Denisard Rivail était devenu Allan Kardec après que, lors d'une séance de spiritisme, un esprit était entré en contact avec l'Assemblée, disant qu'il le connaissait, qu'il avait été druide au temps de l'Antiquité celtique. Au-dessus du lait dolmen, je lus une phrase. « Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi. » Je sortis un papier sur lequel il y avait un condensé de ce que j'avais trouvé sur la mort d'Allan Kardec. Il devait y avoir quelque part une autre phrase qui disait « Tout est fait à une cause, tout est fait intelligent à une cause intelligente, la puissance de la cause intelligente est en raison de la grandeur de l'effet. » Je la trouvais sous la pierre soutenant le buste du fondateur du spiritisme. C'est Camille Flammarion, l'astronome positiviste, qui avait dit, lors de son éloge funèbre, « Car, messieurs, le spiritisme n'est pas une religion, mais c'est une science dont nous connaissons à peine l'ABC. En quoi consiste le mystère de la vie? Par quel lien l'âme est-elle attachée à l'organisme? Par quel dénouement s'en échappe-t-elle? Sous quelle forme et en quelles conditions existe-t-elle après la mort? Quels souvenirs, quelles affections garde-t-elle? Ce sont là, messieurs, autant de problèmes qui sont loin d'être résolus et dont l'ensemble constituera la science psychologique de l'avenir. Ainsi donc, le spiritisme avait bien été un objet d'intérêt des positivistes. Flammarion fréquentait les séances spirites en compagnie d'Allan Kardec et de Victor Hugo. Lui-même avait écrit des ouvrages inspirés de ses préceptes.